Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val-d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, en web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Jacqueline Voraz avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe. Merci d'avoir choisi d'être au rendez-vous de l'économie en direct sur IDFM Radio. Et bienvenue dans cette émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise, artisans ou associations, tous ces passionnés qui créent, gèrent et concourent à la vie économique ou politique. Aujourd'hui, édition spéciale CPME du Val d'Oise, Confédération des petites et moyennes entreprises qui incarne la diversité et la résilience des entrepreneurs français. Pour en parler, je reçois quatre chefs d'entreprise au parcours varié qui illustrent cette vitalité. Jean-Paul M, fondateur et dirigeant de Xpertech, entreprise qui propose des solutions technologiques aux TPE-PME, associations et collectivités en Île-de-France. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Erdinch Kokak, fondateur et dirigeant de JDS Ecopolis, spécialisé en VRD, aménagement extérieur et entretien des espaces verts, mais aussi de Jardin d'essence, une entreprise de service à la personne pour les particuliers. Bonjour Erdinch.
Bonjour.
Jean Bévalet, dirigeant de SESCEF, spécialisé dans la formation, le management. Bonjour Jean.
Bonjour.
Et Pierre-Alain Younan, dirigeant de Merlot, Symbiosis et Ogma. Bonjour Pierre-Alain.
Bonjour.
Vos secteurs, chacun, technologie, services, industrie, culture, reflètent les défis et opportunités de notre époque. Ensemble, nous allons découvrir vos activités respectives et comment la CPME vous accompagne dans votre pluralité et votre richesse. Encore bienvenue chez IDFM Radio et merci d'être les invités en direct de l'économie en direct.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Avant de vous donner la parole, je voudrais vous lire un communiqué de presse de la région Île-de-France qui a récemment attribué son label patrimoine d'intérêt régional à 9 nouveaux sites non protégés en fonction de la qualité de l'architecture et ou de leur intérêt au regard de l'histoire de l'Île-de-France. Parmi ces sites figure la labellisation de l'hôtel de ville de Deuil-la-Barre pour le Val d'Oise. Ce bâtiment d'une homogénéité remarquable a été construit en 1935 par l'architecte valdoisien Louis Poncin, formé à l'école des Beaux-Arts. L'hôtel de ville de Deuil-la-Barre arbore dans tous ses principaux éléments l'élégante monumentalité qui caractérise le style art déco. Le peintre paysagiste Henri Prosper Wirth a décoré l'escalier et la galerie de vastes peintures murales décrivant les travaux de la ville et des champs. Fait rare, la salle des mariages, dominée à chaque extrémité par d'imposantes cheminées à gradins en marbre rouge, conserve encore une partie de son mobilier d'origine. Un lieu que personnellement je connais et que j'avais à cœur de mettre à l'honneur ce matin.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Nous retrouvons mes invités. Donc chacun d'entre eux apporte une expertise unique, mais tous partagent une même vision, celle d'un entrepreneuriat humain, innovant et ancré dans les territoires. On commence avec vous, Jean-Paul M, qui nous parlera, qui allait nous parler de l'impact de la facture électronique, notamment sur les entreprises technologiques. Mais avant, Jean-Paul, pourriez-vous vous présenter auprès de nos auditrices et auditeurs?
Bien sûr. Alors, je m'appelle Jean-Paul, je suis fondateur de la société Xpertech, basée dans le Val-d'Oise à Grolet, et nous accompagnons les entreprises, donc les TPE, PME, les collectivités et associations dans leur transition numérique en leur proposant des solutions technologiques.
Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé à créer votre entreprise ?
Eh bien, il faut savoir que j'ai toujours été entouré d'entrepreneurs inspirants qui m'ont donné le goût de l'entrepreneuriat, oui. Aussi bien dans ma vie personnelle que dans mon parcours professionnel.
Vos parents étaient chefs d'entreprise ?
Alors, pas mes parents, mais mes frères et sœurs, des oncles, des cousins, des cousines.
Oui.
Disons que j'ai pas mal de famille et puis de membres de ma famille et puis des amis qui sont entrepreneurs et qui ont justement, tout en restant modeste, réussi dans l'entrepreneuriat.
D'accord.
Et puis dans mon parcours professionnel aussi, j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise qui m'ont donné envie de me lancer, de créer mon entreprise. Donc vous voyez, aujourd'hui, on est à notre troisième année et puis j'en suis très satisfait.
Alors pour créer cette entreprise, vous avez eu besoin de fonds propres. Comment ça s'est passé au départ ?
Alors, on a eu besoin effectivement de fonds propres, mais j'ai eu besoin aussi de beaucoup de motivation. C'est super important lorsqu'on crée une entreprise dans une atmosphère économique qui n'est pas, je pense, la meilleure.
Oui.
Exactement. Et puis, je pense qu'il faut être entouré aussi de bonnes personnes pour pouvoir, encore une fois, monter une entreprise avec un projet viable et sérieux.
Et où êtes-vous basé ?
Alors, on est basé à Grolet,
d'accord,
dans le 95.
Parce que vous êtes probablement de cette région et que c'était plus facile de vous y installer.
Tout à fait, tout à fait. Disons que le Val-d'Oise, c'est un secteur que je connais bien, vu que j'ai grandi à Sarcelles.
Mmh, mmh.
J'ai grandi à Sarcelles et puis tout mon entourage est du Val-d'Oise. Ma famille, mes clients également. Et il est vrai que nous aussi, chez Expertech, on a pour objectif d'être le leader de notre activité dans le Val-d'Oise. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on propose une offre orientée pour les TPE et pour les PME du Val-d'Oise. Et on a tout intérêt, nous aussi, de se spécialiser dans le Val-d'Oise parce qu'on est une entreprise à taille humaine.
Mmh.
Donc, notre service après-vente est orienté justement vers les entreprises du Val-d'Oise de façon à pouvoir être très réactif lors des installations et puis lors des pannes pour pouvoir assurer un service après-vente de qualité.
Et alors, quels sont les produits que vous proposez ?
Alors, nous proposons différents produits. Nous allons mettre en place dans les entreprises du matériel qui va leur permettre de travailler. Donc ça va être par exemple du photocopieur, de l'informatique, des solutions informatiques, tous les moyens téléphoniques qu'une entreprise a besoin pour pouvoir travailler. Et notre objectif, ce n'est pas juste de mettre en place le matériel, c'est d'assurer un service après-vente de qualité pour le client.
Quand vous dites qu'il faut assurer un service après-vente, vous proposez plutôt une marque qu'une autre ou vous êtes multimarque ?
Alors, nous sommes multimarque. Sur les photocopieurs, nous sommes distributeurs exclusifs de la marque Ricoh.
Mmh.
Ricoh, il faut savoir que c'est le leader mondial du photocopieur. Sur l'informatique, nous sommes distributeurs de matériel Dell, HP. Et puis sur la téléphonie, nous sommes distributeurs de matériel Fanville, qui est une marque spécifique à la téléphonie pour entreprise.
Et quelle est la tendance ? C'est-à-dire votre activité, elle va plutôt vers quel produit ?
Alors aujourd'hui, nos clients impriment de moins en moins.
Mmh.
Et c'est d'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, fait déjà plusieurs années.
Mmh.
Et donc aujourd'hui, les entreprises ont surtout besoin de sécuriser leur informatique.
Mmh.
Et puis, elles ont aussi besoin de prendre le virage du digital. Donc, d'où le sujet de la facture électronique qui arrivera juste après.
Qui va arriver, oui, on va en parler.
Mais les entreprises ont besoin justement de prendre le virage du digital. Et nous, on les accompagne en leur mettant à disposition des outils, des logiciels qui leur permettent de travailler plus rapidement en supprimant certains process qu'on a l'habitude d'avoir dans les entreprises.
Oui, puis ce que je comprends, c'est que probablement votre valeur ajoutée, c'est de pouvoir offrir comme ça plusieurs services. Et vos clients, pour eux, du coup, n'ont à gérer qu'un seul prestataire.
Tout à fait. Alors, comme expliqué tout à l'heure, on propose plusieurs services. Et qui dit plusieurs services dit potentiellement plusieurs fournisseurs pour l'entreprise. Et nous, notre force, c'est justement d'apporter une offre 360 degrés qui est montée en fonction des besoins du client. Et l'avantage pour le client, c'est d'avoir un seul fournisseur. Et l'intérêt d'avoir un seul fournisseur, c'est d'avoir un seul numéro, un seul SAV à contacter pour gérer l'ensemble des problèmes. Et aujourd'hui, pour une TPE, PME, ou bien pour une association, c'est super important d'avoir et de pouvoir compter sur une entreprise réactive qui répond justement à tout ce genre de problèmes.
Et en même temps, vous êtes dans un marché quand même très concurrentiel, donc vous arrivez à sortir votre épingle du jeu.
Alors effectivement, le marché est hyper concurrentiel et comme je le disais tout à l'heure, les fonds ne sont pas... Le capital pour monter une entreprise n'est pas le facteur le plus important, même s'il est important, bien entendu, pour démarrer une entreprise, parce qu'on a besoin de fonds, bien entendu. Mais comment on sort notre épingle du jeu ? En travaillant. En travaillant, on mise beaucoup sur une force de vente.
C'est la meilleure
interne.
Recette.
C'est la meilleure recette, c'est ça. J'ai envie de vous dire que pour sortir son épingle du jeu, eh bien, il faut constamment rechercher de nouveaux clients.
Oui, c'est ça. Ouais, il ne faut jamais baisser la garde dans le commercial, hein, c'est clair.
Tout à fait. Se remettre en question aussi. Ouais, remettre en question, ne jamais baisser la garde, comme vous le dites. Et puis être à la recherche de clients qui pourrait bien entendu rentrer dans notre champ d'action tout en leur apportant encore une fois nos services qui sont orientés vers ces entreprises.
Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'entreprise ?
Nous sommes 5 dans l'entreprise.
Mmh. Donc c'est une belle croissance quand même depuis que vous avez créé.
Je suis plutôt content, c'est vrai. Et je suis satisfait dans le sens où on a en interne en fait une équipe qui va gérer le SAV. Qui va gérer avant même le SAV, donc les installations. On vient d'embaucher deux personnes qui nous ont rejoints pour renforcer la partie commerciale et la partie marketing. Et encore une fois, on compte beaucoup sur les recrutements pour pouvoir développer l'entreprise et continuer à évoluer.
Donc, je crois que vous êtes dans la bonne philosophie de l'entreprise. Jean-Paul, je vous propose qu'on marque une pause. On écoute Oshi, ta marinière, le temps juste de souffler un peu. Ne partez pas, on revient tout de suite après.
Derrière ta cigarette, dans mon cœur, t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas ou tes hauts, t'es si jolie, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits on fasse la bringue. À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer à boire. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant. Que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la carte assez marrant. Viens dans mon équipage, rattrape-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je prolonge mon séjour, quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble et que même tu ripostes. Alors courons sur le sable avant qu'un autre t'accoste. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Célibataire jusqu'à demain. et se donne un air en maillot de bain. Marinière, cherchons un marin prêt à rester sur terre rien que pour sa main. Célibataire jusqu'à demain, et se donne un air en maillot de bain. Marinière, cherchons un marin prêt à rester sur terre rien que pour sa main. Et sur ta marinière, je cherche ta tente d'union. Tu l'as jetée à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer à boire. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jetée à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer à boire. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir.
IDFM, 98FM.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et vous faites partie de l'aventure. Merci d'être à notre écoute jusqu'à 11h. Ce matin, nous retrouvons notre partenaire, la CPME 95, et j'accueille quatre de ses adhérents, Jean-Paul M. Expertech, Erdine Kokak, JDS Écopolis Jardin d'Essence, Pierre-Alain Younan, Merlot Symbiosis Ogma et Jean Bévalet, ESCEF. Alors Jean-Paul, on a compris que vous étiez tous azimuts dans le commercial et je crois que c'est la meilleure des solutions pour réussir. Vous nous proposez ce matin de rester attentif aux évolutions technologiques pour les proposer, enfin en tout cas celles que vous proposez à vos clients. Et notamment, parlez-nous de cette fameuse facture électronique.
Alors, eh bien, effectivement, la facturation électronique va arriver très rapidement, puisqu'elle concerne en fait toutes les entreprises. L'idée de la facture électronique, elle est très simple, c'est de pouvoir déposer des factures et bien récupérer également des factures sur une plateforme DPD agréée par l'État. L'objectif, en fait, c'est encore une fois de pouvoir d'avoir qu'une seule plateforme pour pouvoir récupérer, déposer des factures. Alors, qui est concerné ?
Oui.
Eh bien, toutes les entreprises, tous les professionnels. Ouais. Mais il y a quand même un calendrier. Dans un premier temps, en septembre 2026, toutes les entreprises, je dis bien toutes, devront s'équiper d'outils pour pouvoir récupérer leurs factures électroniques. Et qui sera obligé d'en déposer ? Eh bien, les grandes entreprises, les ETI et les ETI, dès le 1er septembre 2026.
Mais quand vous dites qu'il va falloir s'équiper d'un outil, c'est-à-dire préciser ?
Eh bien, alors, c'est-à-dire que aujourd'hui, il existe plusieurs logiciels qui se sont spécialisés justement dans la facture électronique. Mmh. Et ce sont donc des logiciels qui sont agréés par le gouvernement, donc qui sont DPD. Mmh. Et ces logiciels, en fait, vont vous permettre de déposer vos factures à vous et de récupérer vos factures d'achat. Si vous avez déjà des logiciels en interne de type comptabilité, gestion commerciale ou bien d'autres logiciels, il se peut que vos éditeurs aient pris le virage de justement de la facture électronique et il suffit de vous rapprocher de votre éditeur dans un premier temps, puisque ce serait, je pense, le plus simple pour ne pas multiplier les logiciels. Ce serait peut-être de se renseigner auprès de la maison qui vous fournirait un logiciel métier, de leur poser la question. Est-ce qu'ils ont pris ou pas le virage de la facture électronique ? Tout simplement. Ce serait plus simple.
Parce que ça existe, par exemple, je crois, au niveau des marchés publics, il y a Chorus Pro. Enfin, moi, je pense à Chorus Pro, c'est cet équivalent, c'est ça ?
Alors, tout à fait. Chorus, c'est un très bon exemple. Mmh. Mais là, encore une fois, c'est orienté vers les entreprises. Mmh. Et il n'existe pas aujourd'hui un logiciel spécifique. Nous, on en propose, par exemple, deux. Alors, ce ne sont, pour tout vous dire, ce ne sont pas des logiciels qui font que de la facture électronique. Nous, ce qu'on propose, ce sont donc des logiciels de dématérialisation, de gestion électronique de documents. Et nos éditeurs, qui sont Euclès, Euclès est une filiale de La Poste, et DocuR qui est également une entreprise du groupe Ricoh. Donc ces deux éditeurs de logiciels ont su développer leur logiciel à travers un portail DPD.
C'est ça. Vous avez étudié, on va dire, les plateformes qui seraient peut-être les plus faciles à aborder, et puis vous les conseillez à vos clients.
Alors moi, c'est ça. Alors nous, on conseille, bien entendu, ce qu'on maîtrise dans un premier temps. Donc ce sont les deux solutions que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis encore une fois, ce qu'on conseille aux clients, c'est pour les clients qui ont déjà leur propre logiciel de facturation, qui ont déjà un logiciel de suivi commercial, qui ont déjà peut-être même un logiciel de paye, tout simplement, de se renseigner déjà dans un premier temps auprès de leur éditeur pour savoir si l'éditeur pourrait leur proposer justement cette option DPD. Et d'accord, ce serait quand même beaucoup plus simple pour elles. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de ne pas multiplier les logiciels, les outils. L'idée, c'est que déjà, cette réforme, elle est quand même très lourde, oui, elle est très difficile à faire accepter aux entreprises. Et nous, on a du mal, encore une fois, aujourd'hui,
à convaincre.
Parce que c'est vrai que beaucoup de chefs d'entreprise ne comprennent pas. Ne comprennent pas ce changement.
L'obligation qu'ils vont avoir.
Ouais. Exactement, parce que quand même, c'est pas simple. C'est pas simple pour une entreprise de dire aujourd'hui, la façon dont vous travaillez, c'est terminé. Il va falloir déposer vos factures sur un portail et aller récupérer vos factures sur un portail. Donc quand même, ça oblige les entreprises à se réorganiser. Et donc quand même, je pense que le plus simple, c'est de se rapprocher déjà auprès de son fournisseur pour leur demander s'il prévoit justement cette fameuse rubrique DPD.
D'accord. Je vois Pierre-Alain opiner du chef à propos de cette facture électronique. Vous êtes complètement prêt ?
Alors, je ne vais pas dire on est prêt. En tout cas, on a fait tout le nécessaire. Et là, on va croire que je suis sponsorisé par l'Ordre des experts comptables. Mais voilà, je vous invite à vous rapprocher de vos experts comptables. D'accord. Parce que souvent, il y a des solutions qui sont proposées par l'expert comptable pour... en tout cas, des logiciels qui permettent de recevoir et de transmettre des factures électroniques de manière complètement intégrée avec la compta. Ouais.
D'accord. Jean, vous êtes concerné ? Vous y intéressez ?
Alors, on s'y intéresse. Comme on vient de créer l'école, on est dit on va y aller tout de suite. Donc, effectivement, c'est une orientation qu'on a prise dès le départ.
Erdinç ?
Nous on connaît Chorus Pro, oui. Donc, mais je connaissais pas cette solution là. Je crois que je vais prendre la carte Jean-Paul en partant.
Ah bah écoutez, moi j'en suis ravie quand mes invités peuvent échanger leur carte de visite. Et ma dernière question, Jean-Paul, donc vous êtes adhérent de la CPME.
Oui.
Donc pourquoi avoir rejoint cette confédération ?
Pour faire partie justement d'un groupe d'entreprises. Ça fait toujours du bien en fait de se regrouper avec d'autres chefs d'entreprise pour pouvoir parler de nos problématiques, pour pouvoir échanger. Et c'est vrai que c'est quand même... Ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'encore une fois, ça nous permet de sortir de notre quotidien.
Constater que souvent les problématiques sont les mêmes, même si vous n'avez pas la même activité.
Tout à fait, c'est vrai. Les problématiques en fait sont toujours les mêmes. On a tous les mêmes problèmes. Et c'est vrai que le fait d'échanger avec d'autres personnes à la CPME, eh bien ça fait du bien parce que forcément, on reçoit des avis, des conseils, et puis tout d'un coup à la sortie d'un déjeuner, on se dit en fait cette personne elle a raison, peut-être tout simplement, merci pour son conseil. Et puis ça permet des fois de débloquer une situation qui peut nous paraître très compliquée et qui au final nous permet de rebondir très rapidement.
Oui, oui. Est-ce que dans le cas de la facture électronique, la CPME va peut-être vous aider à porter la voix des petites entreprises face aux régulations, peut-être qu'ils vont faire une campagne ou je ne sais pas.
Alors,
ça ne m'étonnerait pas.
Ça ne m'étonnerait pas, c'est vrai. Ça ne m'étonnerait pas d'eux. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué ce sujet. Et bah, vous voyez, ce serait peut-être une piste à évoquer avec la CPME et Pervin.
Très bien. Merci beaucoup Jean-Paul M pour la présentation de votre activité. On retiendra cette mise en garde pour la facture électronique qui va être obligatoire dans quelques mois. Pour vous contacter, que faut-il faire ?
Eh bien, vous pouvez retrouver nos coordonnées sur notre site internet, donc Xpertech à Grolet, ou bien vous pouvez retrouver nos coordonnées sur notre page LinkedIn, Xpertech tout simplement.
Très bien, merci
beaucoup. Et nous serons ravis de répondre à vos questions.
Merci Jean-Paul.
Merci.
C'est l'occasion d'une nouvelle pause. On écoute le duo Joseph Kamel-Julien Doré et leur titre « Beau ».
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui verra son réveil. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembelle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Elle a laissé son cœur entre nous. Entre nous et le reste. Elle a laissé son cœur à genoux. Sur le sol des promesses. Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
BFM Radio, le média valdoisien.
C'est l'économie en direct, en temps réel pour EDFM Radio, le rendez-vous pour tout savoir sur la CPME du Val-d'Oise et quatre de ses adhérents. Donc ses adhérents Jean-Paul M, Xpertech, Erdinch, Kokak, JDS Ecopolis, Jardin d'essence, Pierre-Alain Younan, Merlot, Symbiosis, Ogma et Jean Bévalet, ESCEF. Donc vous nous direz la traduction tout à l'heure Jean. Et donc, à présent, je me tourne vers vous, Erdinch Kokak. Donc, vous êtes dirigeant de deux univers complémentaires, avec une double expertise qui doit être précieuse. Je vous laisse vous présenter.
Je m'appelle Erdinch Kokak, je dirige deux entreprises.
Ah, je disais Kokak, pardon, vous auriez dû me reprendre.
Pas grave. L'une spécialisée dans l'aménagement extérieur pour... les collectivités, les majors et les entreprises. La deuxième, une société plutôt historique, donc le jardin d'essence service à la personne. On travaille pour les particuliers, parce que c'est une entreprise que j'ai créée il y a déjà 15 ans.
D'accord. Et donc le jardin d'essence, c'est une... Ah non, c'est la... le jardin d'essence que vous avez créé il y a 15 ans.
Tout à fait.
Et vous avez rajouté JDS Ecopolis.
Tout à fait.
Il y a longtemps ?
Il y a une dizaine d'années également. Donc JDS Ecopolis est venu compléter, je dirais, mon expertise, qui est aujourd'hui adressée à une typologie de clientèle complètement différente. Donc voilà.
Vous avez vous avez réalisé probablement un souhait, puisque vous avez un BTS d'aménagement paysager. Vous avez toujours eu envie de faire ça?
J'ai toujours eu envie de faire ça, donc très tôt, à la différence de Jean-Paul, mes parents étaient entrepreneurs dans un univers complètement différent. Et donc très rapidement, j'ai eu envie de me lancer. C'était pas facile. Mais aujourd'hui, je suis très content.
Ouais. Oui, vous ne regrettez pas.
Pas de regret.
Et donc, quels sont les services que vous apportez précisément avec vos deux entreprises?
Alors, la première structure, donc JDS Ecopolis, apporte une expertise sur l'aménagement extérieur. Donc, ça va être de la voirie, ça va être tout ce qui est VRD, donc l'entretien des espaces verts pour les collectivités ou pour les entreprises. Et la deuxième, le jardin d'essence, service à la personne, c'est vraiment très basique, de l'entretien pour les particuliers, une expertise plus ciblée sur une clientèle privée.
Oui, voilà. C'est ça. Aujourd'hui, votre cœur de cible, c'est plutôt les entreprises et puis les communes ?
Tout à fait. Donc pour JDS, ça va être vraiment les communes, les collectivités, donc le département. Et pour le jardin d'essence, ça va être exclusivement les particuliers.
D'accord. Alors, on parle aujourd'hui on parle beaucoup d'écologie. Oui. Donc, c'est un domaine vaste, peut-être parfois compliqué. Est-ce que vous prenez ce virage? Vous l'aviez déjà pris?
Ouais, ce virage-là, on l'a pris il y a déjà 6 ans. On a arrêté de traiter, nous. Donc, ça a été... Bon, au début, c'était un peu sport, donc de faire changer un peu les mentalités. Bon, on a quelquefois... des gens qui comprennent pas pourquoi on a pris ce virage, mais là ça commence à bien fonctionner.
C'est entré dans les têtes.
Dans les têtes pour la partie de traitement. Aujourd'hui, pour tout ce qui est, par exemple, nos matériaux, donc on est plutôt sur des équipements complètement électriques à 95%, que ce soit les machines autoportées, que ce soit les taille-haies, voilà. Donc outre la partie nuisance sonore, on est vraiment sur des équipements, je dirais, bons pour notre planète.
Mmh. Et comment vous œuvrez sur quel territoire exactement ?
Sur la zone, je dirais, collectivité, département, donc on fait plutôt le 95, enfin le Val d'Oise, et les départements qui sont limitrophes, donc les Hauts-de-Seine, les Yvelines. Et pour la partie service à la personne, donc on est exclusivement dans le 95, donc on est au bon endroit, Enghien, Saint-Leu, Saint-Prix, ce coin-là.
Vous êtes combien de personnes dans vos deux entreprises ?
On est un peu moins de 30 personnes, oui. Donc dont 6 encadrants et à peu près 24 techniciens.
C'est ça, donc une masse salariale importante.
Une petite masse salariale. Ouais. Je ne dirais pas importante, je dirais ce qu'il faut pour bien bosser.
Alors, vous avez souhaité nous parler de votre sortie, que la sortie du Covid était très difficile.
Oui.
Parce qu'évidemment, toutes les activités se sont arrêtées.
Tout à fait.
Je vous laisse nous apporter votre témoignage.
Oui, le Covid a été très difficile pour nous, donc sortie très difficile. Donc, bon, on était, je pense, comme beaucoup d'entreprises, en difficulté. À mon sens, on n'en parle pas beaucoup, mais bon, à la sortie du Covid, on a eu de la part d'un de nos clients un impayé.
Ah oui.
Donc ça peut arriver. On a des clients du typologique, des promoteurs qui peuvent mettre la clé sur la porte et ça arrive.
Donc un moment difficile où vous avez dû faire appel au tribunal de commerce de Pontoise.
Tout à fait. Tout à fait. Et puis on a demandé un coup de main au tribunal de Pontoise et pour demander ce qu'on appelle un redressement judiciaire, donc, qui est à mon sens aujourd'hui un outil qui est méconnu de beaucoup de personnes. Dans la tête des gens, c'est souvent liquidation, mais ce n'est pas une liquidation, c'est un redressement. Donc, ça nous permet d'appuyer sur la touche pause et puis de restructurer son entreprise et de faire le point. Et nous, on est resté sur cette touche pause pendant 10 mois pour restructurer. On a fait une refonte de l'entreprise. Et on a demandé à en sortir au bout de 10 mois et qui a été accepté avec les applaudissements du tribunal parce que c'est pas facile. Et aujourd'hui, on est sur un plan de continuation. Donc moi, je voulais parler du plan de continuation, en fait.
Bien sûr, je vous en prie.
On n'est pas formé à ça. Ah. Et le plan de continuation, je trouve, à mon sens, qui est
c'est
difficile.
Lourd.
Ouais, c'est lourd parce que nous, on fait avec une trentaine de salariés, on n'est pas loin de plus de 3 millions de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'encours. On n'a pas de partenaire, je dirais, financier.
Oui.
Donc, on travaille vraiment à flux tendu.
Oui, c'est-à-dire, vous voulez dire que vous n'avez pas vous devez acheter la marchandise...
Permanence comptant.
Oui, c'est ça, au cul du camion, comme
au cul du camion, tout à fait. Exactement, ouais. C'est le mot, parce qu'on a cette casquette, étant donné qu'on était en redressement et aujourd'hui en plan de continuation... Ouais. D'être sorti de prison.
C'est ça.
Un peu comme
oui.
De prison. Donc,
c'est-à-dire qu'il faut, ayez reçu l'argent des factures que vous avez émises pour pouvoir acheter à nouveau du matériel ou des matériaux.
On passe notre temps à travailler en flux tendu, qui est vraiment quelquefois étouffant parce que nous, nos clients, même si on dépose sur Chorus Pro, qui est une super plateforme, et puis il suffit qu'il manque une virgule ou le certificat de paiement en face ne colle pas, c'est tout de suite, on remet une pièce, c'est reparti pour 15 jours.
C'est vrai,
sauf que de l'autre côté, nous, on doit alimenter nos chantiers, on fait que ça, et c'est une vraie difficulté.
Et cette continuation, elle est jusqu'à quand? Ce plan de continuation?
On a encore 7 ans. 7 ans, donc néanmoins, ça ne veut pas dire que ça va durer 7 ans. Mmh. Donc, nous, on va essayer de réduire cette durée-là. Mais pour ça, on a clairement besoin que les fournisseurs nous fassent confiance, qu'on ait ces encours, et les partenaires financiers aussi nous fassent confiance.
Oui, les banques notamment.
Les banques,
oui,
tout à fait.
Parce que votre banque, pour le moment, n'est pas prête à vous accorder des facilités.
Oui, tout à fait. Parce que on était en redressement, donc pour eux, je vous dis, on est allé en prison, on est en sursis, et c'est vraiment compliqué. On a ce qu'on appelle une cotation, Banque de France, qui a dégringolé. Oui. Je le conçois. Néanmoins, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on est en plan de continuation, donc tout va bien. Mais on est en difficulté, parce que même pour réemprunter, pour investir, ou remplacer même un camion pour travailler, c'est compliqué. Voilà.
Mais néanmoins, vous reconnaissez que le redressement judiciaire, c'est quand même une décision qui, loin d'être un échec, est un acte de responsabilité et que c'est un outil précieux.
C'est un outil très précieux. Mm-hmm. Parce que je pense sincèrement, si on n'aurait pas eu le redressement, cette possibilité de le faire, on serait aujourd'hui plus là.
D'autant qu'il faut savoir, je pense, que ces redressements ne sont pas comme ça accordés. Enfin, je veux dire, vous avez été audité et si on vous l'a accordé, c'est qu'on a compris que vous aviez quand même des bases solides.
Oui, il y a un travail qui est fait par le tribunal qui est intéressant. Mmh. Oui, je vais dire intéressant parce qu'on ne connaît pas ça. Quand on ne l'a pas vécu, on ne connaît pas. Et il y a cet audit qui est fait au début... avant de rentrer en redressement, une fois que le dossier est accepté, cet audit-là, vous le faites tous les mois encore.
Oui,
tous les mois, vous êtes accompagné avec un tableau de bord. Mmh. Il faut que les voyants sont verts tous les mois. Et après, nous, ça a duré 10 mois. Ça aurait pu durer peut-être un peu moins de temps, mais on a préféré avoir, je dirais, la protection du tribunal pendant toute cette durée.
Écoutez, je pense que le président du tribunal de commerce sera très content de savoir que vous avez de vos propos, parce que je sais qu'il a à cœur justement de sauver les entreprises plus que de les liquider. Hein. Erdinç, je propose qu'on fasse une nouvelle pause et on va écouter un titre mythique, Allumer le feu de Johnny Hallyday, peut-être pour nous donner du courage dans ces périodes compliquées. À tout de suite.
C'est IDFM Radio sur le 98 FM.
C'est l'économie en direct et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir quatre adhérents de la CPME du Val d'Oise. Jean-Paul M, Expertech, Erdinch, COSAC, JDS Ecopolis, Jardin d'essence, Jean Bévalet, ESCEF et Pierre-Alain Younan, Merlot, Symbiosis, Ogma. Alors Erdinch, on a compris que vous étiez au taquet hein, pour ce plan de redressement, de continuation, pardon. Maintenant, comment est-ce que vous connaissez un petit peu la situation de vos confrères ?
La situation de mes confrères, non, je la connais pas. Je sais que c'est un peu la bagarre hein, sur les marchés, que ce soit public ou privé. Il y a cette compétitivité chaque jour. Il faut se battre. Et voilà.
Et l'important, c'est de rester compétitif.
Je pense que c'est une clé, en plus d'apporter une qualité et une expertise dans notre travail, domaine de compétences, il faut rester compétitif. Ouais. Sinon, on peut rapidement perdre un marché ou se faire devancer par un confrère.
Et au niveau du recrutement du personnel dont vous avez besoin, comment ça se passe ?
Très difficile. Oui. Donc, je pense que je ne suis pas seul aussi dans ce cas-là. Ouais. Le recrutement... Je trouve que le paysage n'est pas assez mis en valeur. C'est un très beau métier. Bon, je sais que quelquefois il pleut. On doit bosser à l'extérieur. Donc
c'est vrai, mais c'est le coin. C'est pour ça qu'on a des beaux jardins.
C'est vrai, tout à fait. Et des beaux parcs aussi. Hein, donc des espaces verts qui sont sublimes. Le recrutement est très difficile. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de les former en interne. Donc il ne faut pas avoir peur de postuler chez nous. On forme nos collaborateurs en interne. Donc j'ai trouvé cette solution plus facile que d'essayer en permanence d'avoir tous les diplômes, un CV bien rempli. Aujourd'hui, nous propose de former le personnel en interne.
Et cette difficulté de recruter, elle se dirige plus vers Jardin d'essence ou JDS Ecopolis ?
Les deux.
Bon, mais comme vous ne manquez pas d'humour, Erdinch, vous dites que le monde de la prestation de service ne mourra pas, même avec l'IA.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc, on a besoin du service. Donc, malgré l'IA qui est présent partout aujourd'hui, je dis pas que c'est pas bien. Au contraire, on travaille avec aujourd'hui sur nos logiciels métiers, dans les mails, partout. La nouvelle génération doit vraiment se familiariser avec le paysage, surtout que c'est notre avenir, en fait.
Bien sûr. Vous parliez de la pluie, là, tout à l'heure. Comment vous faites pour arriver à concilier, justement, la saisonnalité de l'entretien des jardins ?
En fait, selon la saison, on travaille un peu plus. Donc, les horaires des techniciens sont régulés par rapport à la saison. Donc, en hiver, on va bosser un peu moins. Mmh. Ils ont un peu plus de RTT, par exemple, pour compenser les jours de météo difficile. Et en été, on bosse 2 heures de plus donc, pour compenser. On s'organise, en fait, par rapport à la saison.
Très bien. Une dernière question, Erdinch. Vous êtes adhérent de la CPME. Donc, pourquoi avoir rejoint ce club ?
On est, en tant que gérant, souvent seul, donc dans sa tête.
Disait Jean-Paul tout à l'heure.
Exactement, je rejoins Jean-Paul. On est souvent seul, et puis le fait de voir d'autres entreprises et d'autres chefs d'entreprise, ça permet de partager. Je dirais, n'importe quoi. Hein. Donc ça peut être les problématiques comme les investissements, et de s'ouvrir et de voir un peu plus loin.
Très bien. Merci beaucoup, Erdinch COSAC, pour ce témoignage et puis votre tour d'expérience. On retiendra qu'il ne faut jamais baisser les bras puis faire confiance au tribunal de commerce.
C'est ça, exactement.
Si, malheureusement, on se retrouve dans une situation critique. Alors, si on veut faire appel à vous, Erdinch, que faut-il faire ?
Site internet, donc JDS Ecopolis ou Jardin d'essence service à la personne.
D'accord.
Après, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ou LinkedIn. Tout simplement. On est dans le 95, donc à Oni. oui. à côté de Cergy.
Très bien. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, nouvelle pause avec un peu de douceur cette fois-ci avec Fabienne Thibault qui nous accompagne avec son titre « Les uns contre les autres ».
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Merci de votre écoute. Ensemble jusqu'à 11h pour une analyse de l'actualité économique en compagnie de la CPME 95 et ses intervenants. Jean-Paul M, expert tech, Erdinch Kossak, JDS Ecopolis Jardin d'Essence, Jean Bévalet, ESCEF et Pierre-Alain Younan, Merlot, Symbiosis, Ogma. Jean, je m'adresse à vous à présent, donc rebonjour. Vous, Jean, vous êtes spécialiste de la formation et du management, un domaine plus crucial que jamais pour les entreprises en pleine mutation. Présentez-vous et dites-nous quelles sont vos attentes prioritaires aujourd'hui.
Alors, nous venons de créer une école qui s'appelle l'ESCEF, le SCEF, comme
d'accord,
vous dites,
oui. hein,
l'École supérieure
ESCEF,
de commerce et de finance, qui fait de la formation post-bac, c'est-à-dire qu'on prend des jeunes du BTS pour les emmener jusqu'au M2 pour ceux qui le souhaitent, avec des formations qui sont toutes des formations certifiées et reconnues d'État, BTS, bon... Tous les jeunes connaissent les BTS, qui est un titre ministériel. Et ensuite, nos bachelors et les M2, c'est ce qu'on appelle des titres RNCP, donc certifiés par France Compétences, et qui donnent une vraie validité au diplôme.
Et comment on est amené à créer ce genre d'école ?
Alors, comment on est amené ? La formation a souvent été un fil conducteur dans mon parcours professionnel. que ce soit dans le public comme dans le privé. Et puis, à mon dernier poste où j'étais directeur pédagogique d'une école de commerce. Et voilà, et là j'ai eu envie de créer ma propre structure et nous avons donc créé cette entreprise, parce qu'une école reste quand même une entreprise en tant que telle, au mois d'avril, et je vous dis, nos premiers étudiants sont rentrés le 15 septembre.
Quand on regarde des revues économiques, on s'aperçoit que les entreprises ont du mal à recruter, enfin ont du mal, ne trouvent pas de commerciaux. Donc vous êtes dans dans ce domaine. Comment vous l'expliquez ?
Alors, il y a souvent un fantasme autour du métier de commercial. La liberté, je gagne beaucoup de sous, je fais un peu ce que je veux, et la réalité montre que c'est pas du tout ça. Le métier de commercial, c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement personnel, qui demande de la formation. Ça s'invente pas d'être commercial, d'accord ? Ça s'apprend. On peut avoir de l'empathie pour les gens, on peut avoir de la connaissance technique, mais le fait de vendre demande quand même une vraie approche très professionnelle. Donc c'est un peu dans cette démarche-là qu'on forme nos jeunes. Après, effectivement, c'est un métier usant, hein. Le commercial, ça demande beaucoup d'investissement personnel. Ça demande, alors vous pouvez être commercial sédentaire ou commercial terrain, comme on dit, mais c'est quand même, c'est fatigant. Sur le plan physique, sur le plan psychologique. Et vous avez des personnes qui pensaient avoir de l'appétence pour cette activité et qui s'aperçoivent que ce n'est pas si simple que ça.
Elles s'essoufflent.
Voilà.
Et en même temps, pour quelqu'un qui travaille, puisque Jean-Paul parlait que l'important c'était de travailler, ça peut aussi être un métier où on gagne très bien sa vie.
Ah, tout à fait. Tout à fait, mais vous savez, il y a plein de métiers où on gagne très bien sa vie, mais la réalité, c'est que pour très bien gagner sa vie, il faut d'abord beaucoup travailler.
Oui, oui, oui. On est bien d'accord.
Voilà.
Malgré toutes les formations dont on peut disposer.
Voilà, nous, notre rôle, si vous voulez, c'est d'emmener les jeunes au diplôme. BTS, c'est sur 2 ans, le bachelor sur 1 an et le M2, enfin le master sur 2 ans. Notre raison d'être, c'est encore une fois, donc, comme je viens de le dire, de les emmener au diplôme, de leur proposer une approche la plus concrète, si vous voulez, possible du monde de l'entreprise. C'est pour ça que on pratique l'alternance.
D'accord.
Au niveau des contrats des jeunes, avec toutes les difficultés économiques qu'on a aujourd'hui, dont on pourra peut-être parler après, mais c'est vrai que là, on est en train de traverser une période un petit peu compliquée, mais ça permet aux jeunes, je crois que ça répond aux attentes aujourd'hui, qui est qu'il a à la fois cette approche didactique, hein, le cours, et puis en même temps la vie dans l'entreprise.
Et donc, vous êtes cette école, elle est composée de combien de personnes aujourd'hui ?
Alors, nous sommes 2 permanents.
D'accord.
Et tout le reste, entre guillemets, j'aime pas beaucoup le terme, mais toutes les autres personnes sont des prestataires, en fait.
Oui.
Que ce soit un comptable, que ce soit un juriste et nos intervenants, nos profs,
oui.
ce sont des prestataires extérieurs. Le choix, si vous voulez, d'un modèle économique le plus simple pour nous, pour l'instant.
Vous êtes basé à quel endroit ?
Nous sommes sur Cergy, boulevard de la Paix.
D'accord.
Voilà, donc on s'est installé là. Beaucoup de concurrence, c'est certain. Maintenant, des secteurs d'activité où il n'y a pas de concurrence, si vous en connaissez, ça m'intéresse.
Oui. Et puis, salutaire, la concurrence.
Oui,
hein,
tout
ça
à fait.
Oblige une émulation.
Après, il y a toujours moyen de se différencier. L'élément différenciant, il peut être par l'offre. Déjà, au niveau des diplômes, il est dans l'approche pédagogique, il est dans la relation entreprise. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus.
Donc là, vous venez d'avoir votre rentrée.
Oui.
Avec combien d'étudiants ?
On a presque 50 étudiants.
Ah oui, c'est bien.
Oui, on est content.
C'est bien, donc
c'est une belle
réussite. Voilà. Est-ce que vous adaptez vos programmes pour répondre justement aux attentes des jeunes, je pense aujourd'hui au télétravail, au sens du travail ?
Alors ça, c'est une vraie bonne question. On n'adapte pas les programmes. Pourquoi ? Parce que, par exemple, le BTS en tant que tel, nous, on fait deux BTS. On fait un BTS CG, compte à gestion, et un BTS MDRC, qui est la partie commerciale avec toute l'approche digitalisation. Ce sont des programmes extrêmement contraints par le ministère. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre choix que de suivre un contenu qui nous est imposé et qui permet en fait à tous les étudiants de France qui font un BTS CG ou un BTS MDRC, ils ont tous la même formation. Okay. Après, quand on intervient sur du bachelor ou sur du M2, c'est un peu plus souple. Pourquoi ? Parce que le certificateur, c'est-à-dire l'organisme qui nous dit « vous avez le droit d'enseigner pour l'obtention de tel diplôme », nous donne un schéma, mais nous accorde une petite latence pour permettre d'apporter telle spécialité, d'apporter telle conférence, tel intervenant, ce genre de choses.
Très bien. Donc, votre école, c'est une école qui est sous contrat, bien sûr, mais on peut connaître les tarifs de votre école ?
Alors, c'est une école privée, totalement privée. On n'a pas de relation contractuelle avec l'État sous aucune forme. Maintenant, les tarifs, comme je vous le disais, on fait prioritairement de l'alternance. Donc l'alternance, je rappelle quand même que ça a trois intérêts majeurs pour le jeune. C'est que d'abord, un, la formation, elle est gratuite pour lui.
D'accord.
Puisque chez nous, on ne pratique pas de frais d'inscription. Ensuite, ça lui fait une vraie expérience professionnelle,
cette alternance.
Ça permet d'enrichir un peu le CV. Et puis, troisième intérêt aussi pour le jeune, c'est qu'il gagne un peu de sous, même si c'est jamais assez, ça lui fait un revenu complémentaire.
Bien sûr. Alors, je m'adresse à mes trois autres invités. Vous faites appel à des alternants, Pierre-Alain ?
Oui.
Oui ? Régulièrement ?
Alors, régulièrement, non, mais ça rejoint un petit peu ce qui était dit tout à l'heure sur la difficulté à trouver des compétences sur le marché. On a abandonné l'idée de trouver un technicien déjà formé, donc on a embauché un jeune en alternance qu'on forme sur nos métiers, parce que c'est... Bon, je reviendrai sur les spécificités tout à l'heure, mais on est sur une niche d'activité, donc on trouve pas de compétences déjà présentes sur le marché.
Jean-Paul M.
Oui, bien sûr, on fait appel à des alternants. On a besoin d'eux et on en a deux. Donc, nous venons de recruter une commerciale en alternance et puis une chargée de communication également en alternance.
Oui, très bien, bravo. Erdinj ?
Nous aussi, on a deux alternants.
Bon, écoutez, vous êtes des entreprises modèles, puisqu'on parle souvent des entreprises qui ont du mal à recruter des alternants. Hein. Jean, je crois que c'est...
Oui,
c'est
mais
un,
vous savez...
C'est un sport, un petit peu, ça.
Alors oui, c'est un sport. D'abord, le recrutement, ça n'a jamais été facile pour personne. Mais globalement, les chiffres disent que... chiffres officiels, disent que 90% des entreprises qui font appel à l'alternance sont satisfaites du système, et 91% des étudiants qui ont été sous contrat sont aussi satisfaits de cette démarche. Donc là, il y a une vraie réalité du système. Le problème de l'alternance, c'est qu'en France, on a quand même été assez en retard. C'est-à-dire, globalement, on a tout niveau confondu, mais on a un peu plus d'un million de contrats en alternance en France. C'est 1 600 000 en Allemagne.
Ah oui.
Donc il y a un vrai retard de ce côté-là, avec un choix politique qui a été fait récemment et qui, là, pour nous, est un vrai problème. C'est que l'aide aux entreprises, qui était avant de 6 000 euros par étudiant, est passée à 5 000 euros. Et l'alternance touche beaucoup les PME, par définition, touche aussi parfois les ETI. Et c'était cette aide, si vous voulez, à 6 000 euros, ça faisait quasiment 6 mois,
ça
voire
couvrait,
7 mois de rémunération. Je lisais un article il y a quelques jours qui disait que cette mesure politique risque de mettre 65 000 jeunes sur le carreau.
Ah oui.
C'est énorme.
Oui, c'est énorme.
65 000 jeunes qui auraient pu trouver une entreprise et qui n'en trouvent pas aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, quels sont vos besoins, Jean, si vous devez les exprimer à la radio, IDFM ?
nos besoins, c'est ce que j'appelle une confiance partagée. Nous sommes dans une relation tripartite. Il y a l'école, il y a le jeune et il y a l'entreprise. À partir de ce moment-là, nous sommes une école jeune, ça c'est une réalité, d'une façon ou d'une autre on ne peut pas le cacher, il faut que les entreprises nous fassent confiance, nous aident aussi dans cette démarche. Il faut que les jeunes gardent le moral, il faut qu'ils s'accrochent. Nous, on les aide autant que faire se peut. C'est pour ça que, par exemple, nous, on accepte les jeunes, même s'ils n'ont pas d'entreprise, on va leur laisser du temps pour trouver une entreprise. Contrairement à d'autres écoles.
Oui, vous avez une certaine flexibilité. Ouais.
D'autres écoles disent, madame, monsieur, si vous n'avez pas d'entreprise, vous ne commencez pas les cours. Ce n'est pas le choix qu'on a fait.
D'accord.
Alors après, il y a un moment, le modèle économique fait qu'il faudra trouver une solution. Mais voilà.
Vous ne fermez pas la porte.
Non, on ne ferme absolument pas la porte. On ne veut pas laisser de jeunes sur le carreau.
Donc, votre école, vous nous en donnez les coordonnées, si on veut vous joindre.
Alors, nous avons donc, comme mes collègues, un site internet, donc l'ESCEF, escef.fr. Mmh. Vous pouvez nous joindre par mail, vous pouvez nous joindre par téléphone, et puis nous sommes présents sur l'ensemble des réseaux sociaux.
Très bien. Et la question Joker, vous êtes adhérent CPME, pourquoi ?
Oui, je suis. Ah ben parce que, vous savez, il y a un adage qui dit que tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin.
C'est vrai.
Je pense, et je rejoins totalement sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quand même intéressant de pouvoir échanger, discuter, et on s'aperçoit que les problématiques sont les mêmes dans toutes les entreprises et que parfois je vais discuter avec quelqu'un qui lui a une solution auquel j'ai pas forcément pensé et je crois que c'est dans cet esprit-là qu'il faut aller.
Et puis je pense que la CPME, ce que je disais tout à l'heure à, je sais plus si c'était à Jean-Paul ou à Erdinch, que la CPME plaide sûrement pour des formations accessibles au TPE, donc c'est un peu gagnant-gagnant comme contrat. Merci infiniment, Jean Bévalet, pour votre éclairage et puis cet engagement qui montre que l'humain et l'innovation sont au cœur de l'entrepreneuriat. Merci à vous.
Merci.
Voilà, avant d'enchaîner la dernière ligne droite de cette émission, si on écoutait Ben, l'oncle Saul, et son titre phare, Soulman.
Je suis pas un Superman. sais qu'en vrai c'est déjà ça.
Oh. IDFM Radio 98 FM.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et nous poursuivons avec toujours à mes côtés Jean-Paul M, Expertech, Erdinch, Cossack, JDS Ecopolis, Jardin d'essence, Jean Bévalet, Esquef et Pierre-Alain Younan, Merlot, Symbiosis, Ogma. Alors Pierre-Alain, je suis ravie de vous accueillir à nouveau dans nos studios. La dernière fois, ça remonte quand même à 3 ans, donc vous avez largement le droit de revenir nous voir. Comment allez-vous depuis ces 3 ans ?
Très bien, merci beaucoup Jacqueline de m'inviter à nouveau.
Vous, vous êtes ingénieur, entrepreneur, acteur et producteur, un parcours très éclectique. Comment arrivez-vous à concilier industrie, conseil et théâtre ?
Je dors peu, il faut le dire. J'ai surtout, on parlait tout à l'heure de l'importance de l'équilibre à la maison, la vie personnelle. Mon épouse et mes enfants, même s'ils sont encore très jeunes, me soutiennent dans tous mes projets. Et ça, c'est très, très, très important. Et en fait, pour comprendre comment je suis arrivé là, c'est vraiment un parcours qui s'est construit au fur et à mesure. C'est comme si les briques étaient venues s'ajouter les unes après les autres. Et bah, naturellement, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant j'ai envie de faire tout ça. Ça s'est construit progressivement.
Pourriez-vous nous en dire plus sur ce parcours ?
Bien sûr. Tout a commencé il y a 20 ans. Premier acte entrepreneurial qui était de rejoindre la société Merlot. D'abord sur le siège passager et que j'ai fini par reprendre.
Donc, reprendre une entreprise familiale donc.
Hein. Exactement, entreprise familiale, PME industrielle, déjà fortement implantée dans son tissu, qui a fêté ses 100 ans en 2023, donc entreprise centenaire, qui m'a permis d'évoluer dans un environnement technologique international passionnant. J'ai repris un ancien client en Espagne, créé une filiale en Chine, mais au bout de 15 ans, j'avais un peu le sentiment d'avoir fait le tour de cette industrie passionnante, mais assez complexe, en France en particulier. Et j'ai ajouté à ma casquette d'ingénieur et d'entrepreneur celle de comédien. J'ai commencé une formation de comédien en cours du soir. Et parallèlement à ça, je me suis dit comment joindre l'utile à l'agréable. Et dans mes mots-clés de recherche d'entreprise à reprendre, j'ai ajouté théâtre et cinéma en me disant on ne sait jamais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, il y a 5 ans, à reprendre les parts du fondateur qui partait à la retraite. Du cabinet Symbiosis Consultant. Symbiosis Consultant qui utilise depuis bientôt 40 ans les outils et techniques du théâtre et du cinéma pour impliquer, donner envie, faire bouger les collaborateurs en entreprise. Ça passe par de la formation, par du coaching, par du team building, par des événements avec à chaque fois l'importance de cette connaissance fine du monde de l'entreprise et utiliser des outils qui travaillent sur la posture, le comportement, ce qu'on appelle le savoir-être. Les Américains appellent ça les soft skills, mais soft skills, je trouve le terme français beaucoup plus parlant encore.
Je trouve.
Et depuis un an, puisque rien ne m'arrête, évoluons avec des intervenants talentueux qui sont tous comédiens, certains sont auteurs, réalisateurs, metteurs en scène. C'est présenter l'opportunité de devenir producteur de spectacle. Et donc, à travers ma holding Ogma, je suis devenu entrepreneur de spectacle et j'ai emmené mon premier spectacle à Avignon cet été, qui a été un succès puisque complet dès le deuxième jour. Et l'aventure se poursuit puisque la pièce se joue en ce moment à la Comédie Bastille.
Et dont le titre est
Gagnant-gagnant.
Voilà, le clin d'œil de tout à l'heure avec Jean. Je voudrais juste revenir avant de continuer sur le titre de cette pièce. À Pierre-Alain, vous ne nous avez pas dit quelle était l'activité de Merlot ? précisément?
Non, effectivement, puisque j'en ai longuement parlé à l'occasion des 100 ans, mais oui, je reviens dessus.
Je suis pas sûr que
effectivement.
Il y a 3 ans,
non, souvent. Plus sérieusement, Merlot, c'est un constructeur de matériel et systèmes de sonorisation. Oui. Donc, comme vous le savez, c'est une marque ancienne, constructeur français, créé en 1923, et qui a je vais pas vous refaire tout l'historique,
non,
ce serait un peu long, mais
savoir.
Qui aujourd'hui est vraiment spécialisé dans tout ce qu'on appelle la diffusion de messages d'information dans les lieux sont du public, les gares, les aéroports, les centres commerciaux, les établissements scolaires. Donc on conçoit, on fabrique des produits, c'est vraiment nos produits, c'est pas, on prend pas des produits chinois sur lesquels on colle une étiquette avec notre nom. Donc c'est vraiment spécialiste de ce domaine, et on s'est développé en France et à l'export à travers des partenariats, et des partenariats de préférence avec d'autres fabricants. En France, par exemple, on travaille depuis maintenant 10 ans avec la société Baudet, que certains connaissent ici, qui sont spécialisés dans tout ce qui est horloge, distribution, le temps distribué en fait, tout simplement, et on intervient avec eux dans les établissements scolaires pour tout ce qui est sonnerie de fin de cours.
Ah oui.
Donc eux gèrent toute la partie horloge, temps distribué, même les lecteurs de messages personnalisés, et c'est nous qui fournissons le matériel, donc les amplis, les pupitres d'appel, les haut-parleurs. On monte des baies de sonorisation, montées, câblées, testées en usine, dans lesquelles on intègre les produits Baudet, mais c'est les commerciaux de Baudet qui vendent nos produits. Donc c'est un vrai partenariat
qui fonctionne bien,
qui est pérenne et qui quelques pistes de développement, mais je n'en dirai pas plus pour le moment, c'est confidentiel.
D'accord. Moi, je voulais savoir, quand on a 3 entreprises comme ça, éclectiques, comme je l'ai dit, est-ce qu'elles s'enrichissent mutuellement? Est-ce que elles s'articulent entre elles ou pas du tout?
Alors, certaines plus que d'autres, mais globalement, le secret pour pouvoir mener de front ces 3 activités, c'est de s'appuyer sur des associés. Je ne suis pas tout seul. Il n'y a que dans ma structure de production où je suis seul, mais dans les 2 autres activités, que ce soit chez Merlot ou chez Symbiosis Consultant, c'est le fait d'avoir des associés, d'avoir une équipe et surtout de faire confiance. Je reste majoritaire, je reste le patron entre guillemets, mais je ne prends aucune décision sans chercher à embarquer, en tout cas faire adhérer l'ensemble des collaborateurs, et en premier mes associés bien sûr.
Pierre-Alain, on revient à votre pièce gagnant-gagnant, son pitch.
Est-ce que vous avez tous déjà participé à une convention d'entreprise?
Oui.
Eh bien, une convention d'entreprise, c'est une pièce de théâtre qui s'ignore.
D'accord.
Et gagnant-gagnant, c'est une parodie de convention d'entreprise où les spectateurs sont invités comme s'ils étaient reçus, comme ils étaient les participants, comme ils étaient l'équipe commerciale, marketing, on salue la compta au troisième rang à gauche. L'idée, c'est d'être vraiment immergé dans cette convention et défile sur scène une galerie de personnages tous plus vrais que nature, puisque c'est tiré de plus de 15 ans d'expérience vécue, que ce soit l'auteur Gilles Guirec, les autres comédiens, tous ont vécu de l'intérieur des conventions d'entreprise, et c'est assez jubilatoire puisqu'on rit pendant 1h20 du début à la fin. C'est mordant tout en restant correct, c'est juste ce qu'il faut d'impertinence sans devenir vulgaire. Enfin, je peux pas vous le vendre autrement.
Moi
je l'ai vu déjà 20, 30, 40, 50 fois et je ris à chaque fois autant.
Vous êtes, ça marche toujours.
Je suis peut-être bon public.
Malgré des tirades que vous devez connaître par cœur.
Ah oui, j'en arrive à citer la pièce sans m'en rendre compte, mais en même temps, c'est tellement vrai.
Ça donne envie d'aller la voir, hein, cette pièce, Pierre-Alain. Donc aujourd'hui, elle joue à la Comédie Bastille, hein, dans le 11e.
Tout à fait. Alors, on est parti sur un démarrage assez ambitieux, puisque pour l'instant, la billetterie est ouverte jusqu'au mois de janvier. Mmh. Et elle se joue les mercredis et les vendredis à 19h, et les jeudis et samedis à 21h. Donc
bien.
4 représentations par semaine.
Quand on débarque comme ça à Avignon, vous étiez inquiet ou pas du tout? Vous étiez persuadé que ça allait être un succès?
Alors, j'y croyais dans cette pièce, sinon je n'aurais pas pris ce risque. Et Avignon, alors il y a 5 ans, j'avais entendu parler du festival, mais je n'y avais jamais mis les pieds. Et chaque édition, depuis 5 ans, je me rapprochais un petit peu plus. Donc, commençant comme simple festivalier, ensuite... aller voir les copains, rencontrer, revoir des metteurs en scène, des auteurs avec qui j'avais l'occasion, et la consécration était d'y aller en tant que producteur de spectacle. Et là, croyez-moi, le festival prend une toute autre saveur quand on est vraiment parti. Peut-être la prochaine étape sera d'être moi-même sur scène, voyons. Mais déjà là, en tant que producteur, c'était... Assez intense comme expérience.
Est-ce que vous allez au théâtre, mes autres invités, Erdinch, Jean-Paul et Jean?
Cinéma, oui, mais pas théâtre. Ce sera peut-être l'occasion.
Oui, je suis un passionné de théâtre.
Ah, très bien. Bon, donc vous allez aller voir la pièce de Pierre-Alain. Merci infiniment, Pierre-Alain. Alors, je crois que vous vouliez quand même, parce que dans mon questionnaire, il est question d'actu national, vous voudriez quand même nous alerter sur la crise de la diffusion dans le secteur culturel.
Oui, d'une manière plus globale, c'est vrai que la culture, en temps de crise économique, un des premiers secteurs qui souffrent, c'est la culture. Mmh. C'est la culture parce que les gens vont moins au théâtre, vont moins au cinéma. Les budgets, notamment municipaux, régionaux, sont réduits et on se retrouve face à des créations qui ont du mal à exister. Moi, je ne m'exprime qu'au nom des entrepreneurs privés, parce que j'ai découvert que dans le monde de la culture, il y avait vraiment des univers qui se côtoient mais qui ne se parlent pas vraiment. On ne parle pas de culture subventionnée, on ne parle pas de théâtre dit public, mais moi, j'ai rejoint le syndicat national des entrepreneurs de spectacle, qu'on appelle la scène indépendante, et notre spécificité, c'est qu'on est des entrepreneurs de spectacle, on prend des risques, et on a peu ou pas d'aide, des dispositifs.
Ça, si la pièce ne marche pas,
Ça peut paraître un petit peu vulgaire, mais nous, il faut qu'on vende des places, il faut qu'on fasse venir du public, il faut que les spectateurs achètent des billets. Et ça, auprès de certains acteurs de la culture, c'est difficile à comprendre. Mais malgré tout, malgré cette volonté d'aller, de faire remplir les salles, on a besoin, notamment pour que la pièce soit achetée en tournée. Une tournée, c'est quand vous vendez, la pièce se joue à Paris ailleurs, mais elle doit circuler en France. Et là, c'est souvent des budgets municipaux qui achètent la pièce sur un prix fixe, qui se débrouillent pour vendre des places pour plus ou moins rentabiliser, ou qui l'offrent à leurs administrés. C'est tout dépend de la politique culturelle de la mairie. Et à partir du moment où les budgets de la culture sont coupés, ne peut plus vendre de dates de tournée. Or, moi, quand je vais à Avignon avec un spectacle, je perds de l'argent. Mais c'est un investissement. C'est comme un salon professionnel. Vous louez un stand, vous avez, etc. Et puis, vous dites, je vais voir un carnet de commandes derrière. Donc, on va à Avignon. On sait qu'on va parce que le logement est hors de prix. Donc, j'ai tenu... paye les comédiens, bien sûr, on paye le théâtre, parce que mais la billetterie ne suffit pas à récupérer son investissement. Il y a un dispositif d'aide pour les salles à petite jauge, mais qui est mis en danger et qui va probablement, si ce n'est disparaître, être fortement réduit. Donc les professionnels sont vent debout et essayent de se battre pour sauver ce dispositif, mais il reste quand même de l'argent investi qu'il faut récupérer en vendant en tournée. Et si on ne peut pas diffuser le spectacle après Avignon, ça ne sert plus à rien d'aller à Avignon.
D'où votre cri d'alerte pour auprès des instances, exécutives, on va dire. Merci beaucoup, Pierre-Alain. Alors, vous êtes adhérent de la CPME depuis un petit moment maintenant, puisque par rapport à nos autres invités qui le sont depuis récemment. Donc, pourquoi cette adhésion?
Alors, Pourquoi la CPME? Je vais repartir sur mes autres activités très rapidement. Oui. Dans chacune de mes métiers, je suis adhérent d'un organisme professionnel. Donc, Merlot, adhérent du GIM, c'est l'industrie de la métallurgie. Symbiosis consultant en tant qu'organisme de formation de la Fédération des acteurs de la compétence. Et OGMA, de la scène indépendante, comme je le disais. Chacun de ces organismes est spécialisé, sectoriel, et on croise nos pairs et on parle de problématiques du secteur. Ce qui est formidable avec la CPME, c'est qu'on croise, et je pense qu'on a l'exemple ici autour de cette table, dans ce studio, des acteurs de secteurs d'activité très différents. Mmh. Et c'est ce côté vraiment transverse et pluriel qui me plaît énormément à la CPME.
Ben voilà, vous aurez fait le plaidoyer de Laurent Pillard qui n'est pas avec nous et qui n'en aurait pas moins dit. Merci beaucoup Pierre-Alain, merci pour cette formidable démonstration passionnée de management multiforme et varié. Alors, merci, Jacqueline. Je pose aussi à mes autres invités de comment vous contacter, mais si on veut vous contacter, pour quelle activité,
Pierre-Alain ? Alors déjà, on parlait de LinkedIn tout à l'heure. Pierre-Alain Younan sur LinkedIn, vous êtes en contact avec moi assez facilement. Merlot, il y a le site Merlot, MERLAUD.fr. Symbiosis consultant, alors attention, c'est compliqué, c'est symbiosis-consultant au pluriel.net, on va y arriver. Et quant à OGMA, je vous dirais, allez plutôt sur le site de la Comédie Bastille pour réserver vos places pour gagnant-gagnant.
Très bien, merci infiniment. On va aller voir cette pièce et on vous tiendra au courant. Merci à vous. Voilà, cette émission se termine. Alors, on a encore quelques minutes, Christophe, pour un mot de conclusion. Donc, je refais le tour dans l'ordre. Jean-Paul M., un petit mot avant de nous quitter.
Mais écoutez, moi, je voulais simplement rebondir sur un point que je n'avais pas évoqué tout à l'heure, c'était la sécurité informatique des entreprises.
D'accord.
À ne pas négliger, surtout les TPE et PME. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on parle de sécurité informatique, les entreprises nous répondent que, de toutes les manières, leurs données ne sont pas très importantes, qu'elles ne sont pas sensibles, que, en quelques mots, que même si elles subissaient une cyberattaque, un crash informatique, que les dégâts ne seraient pas très élevés. Eh bien, j'ai envie de dire, méfiez-vous, parce que 80% des entreprises qui subissent un crash informatique, un dégât des eaux, un incendie, un vol, une cyberattaque, 80% n'ont pas de plan de reprise d'activité. Et c'est très souvent les petites entreprises qui négligent ce point, et c'est très souvent ces entreprises qui sont justement vulnérables et attaquées. Donc, je dis simplement méfiance, et puis si ces entreprises veulent avoir un audit, eh bien, peuvent nous contacter et puis on leur offrira justement un audit spécialisé en fonction de leur taille d'entreprise. Et puis, merci à vous également de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup.
Merci à vous. Ben, merci aussi pour ce rappel sur la sécurité, parce que je crois que l'ANSSI dit on ne sait pas quand vous serez attaqué, mais on sait que vous serez attaqué. Hein, donc,
voilà. Tout à fait.
J'apporte un peu d'eau à votre moulin. Merci beaucoup, Jean-Paul M. Erdine Cressac.
Moi, je crois vraiment que je vais prendre les coordonnées de Jean-Paul.
Mais écoutez,
je voulais juste vous remercier pour cette invitation.
Je vous en prie, merci, c'est beaucoup. Très agréable. Merci, merci à vous. Jean Bévalet.
Bon, je vais faire comme mes amis. D'abord, merci, parce que ça fait plaisir de pouvoir un peu s'exprimer sur son activité. Ça a été dit, mais c'est être chef d'entreprise aujourd'hui, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est de la passion. Voilà, il faut avoir la tête bien sur les épaules et une famille qui entoure, parce que parfois les nuits sont compliquées. Et quand on a un environnement personnel qui est déjà stable, ça aide beaucoup. Voilà, pour terminer, mon seul point d'inquiétude, comme je l'évoquais tout à l'heure, ce sont cette fameuse baisse de dotation aux entreprises pour les alternants. J'espère que ce sera revu, parce qu'aujourd'hui, l'économie, le pays n'a pas les moyens de laisser presque 70 000 jeunes sur le carreau.
C'est clair. Je crois que ce qu'on demande tous, c'est de la stabilité. Hein. Voilà. Donc, espérons qu'elle revienne. Merci, Jean-Bélaire.
Merci à vous.
Pierre-Alain Younan, le mot de la fin est pour vous.
Quelle pression. Je reciterai Jean tout à l'heure. Exactement, avant la tombée de rideau. L'importance des autres, l'importance de la famille, l'importance du réseau, l'importance de ne pas rester seul en tant qu'entrepreneur, puisque, comme l'a très justement dit Jean tout à l'heure, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
Très bien. Ben, merci infiniment. Merci pour cette conclusion. Et puis... pour ce temps consacré chacun à l'économie en direct, une émission qui a montré que la CPME est bien plus qu'un réseau. C'est un écosystème où se croisent technologie, services, industrie, culture. Et puis, vous nous avez partagé une conviction commune. L'entrepreneuriat est une aventure collective où chaque défi, facture électronique, fidélisation, innovation deviennent opportunités grâce à l'entraide et à l'accompagnement de la CPME. Merci à nos fidèles auditrices et auditeurs. Si un défi vous a inspiré dans ces parcours, écrivez-nous sur nos réseaux sociaux pour partager vos propres expériences. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vendredi, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous, un rendez-vous consacré en partie à Madame le maire de Villiers-le-Bel. Et nos programmes surtout se poursuivent sur IDFM Radio. À plus tard.